L'atelier des médias. Ziad Malouf.
Qu'est-ce qui fait le plus peur, le terrorisme ou des gouvernements bloquant des sites web au nom du terrorisme? Cette question a été posée par le journaliste Glenn Greenwald dans un article récent publié sur First Look. Le journaliste qui a révélé les abus de la NSA et l'affaire Snowden y attaque violemment le blocage administratif lundi dernier de 5 sites faisant, je cite, l'apologie du terrorisme par le ministère français de l'Intérieur. La possibilité pour l'exécutif français de censurer sans l'accord préalable d'un juge un site internet est une nouveauté de la loi antiterroriste adoptée en novembre dernier. Elle permet la vitesse, mais elle comporte aussi un risque, notamment la précipitation. Moi, censuré par la France pour mes opinions politiques. C'est le titre d'un billet publié sur Numérama. Un anonyme y explique que son site Islamic News a été censuré par la France. Il s'oppose point par point à cette décision et explique qu'il n'a jamais fait l'apologie du terrorisme. C'est sa parole contre celle du ministère de l'Intérieur. La censure administrative n'est pas la seule nouveauté de la loi antiterroriste. Les centaines de poursuites pour apologie du terrorisme procèdent de la même logique. Ce délit a été sorti du cadre de la loi sur la liberté de la presse. Le gouvernement actuel prévoit de sortir également les cas de diffamation et d'injures de type raciste de ce cadre. Voici ce qu'en pense la vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris, Fabienne Sirdet-Garnier, présidente de la 17e chambre, cette chambre qui juge les délits de presse. Elle s'exprimait dans le cadre des assises du journalisme spécial Charlie organisées la semaine dernière à Paris.
RFI. C'est inquiétant une fois de plus, non pas par corporatisme, mais parce que ce sont, j'insiste, des infractions extrêmement complexes. Quand ce sont vraiment des débats comme « Vive Charlie Koulibaly », je suis persuadée que régulièrement au cours de l'audience, je change d'opinion moi-même. J'entends l'avocat de la partie civile ou le procureur, je me dis oui, et puis après j'entends l'autre, je me dis oui, et après on jette nos idées en commun, on se réfère à tout ce que l'on sait, à tout ce que l'on a vu, à toute la jurisprudence que l'on connaît, et la décision finit par jaillir, et après il faut l'écrire, et croyez qu'on pèse au trébuchet chacun de nos mots. Donc juger ce type d'infraction, par exemple, j'en ai fait aussi, donc je sais ce que c'est, en comparution immédiate, ça me paraît totalement aberrant.
Sauver les médias, c'est le titre de l'essai que vient de publier notre invitée, l'économiste Julia Cagé. Elle y propose un nouveau modèle d'entreprise à but non lucratif pour la presse. On la retrouve dans un instant après la chronique américaine de Marie-Catherine Butte. D'ici 40 minutes, Francis Pisani nous présente le bureau des temps de la ville de Rennes.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Marie-Catherine Butte.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Tu souhaites aujourd'hui nous parler du nouveau consommateur d'information et probablement aussi d'ailleurs du futur consommateur d'information.
Absolument. L'American Press Institute a publié cette semaine une étude sur les comportements de consommation des Américains âgés de 18 à 34 ans, autrement dit la première génération numérique que découvre l'Amérique. Et ces comportements sont très intéressants parce que ces jeunes, c'est les citoyens d'aujourd'hui et de demain, et puis aussi les consommateurs des anciennes institutions médias, mais aussi des nouveaux sites qui sont nombreux à se lancer en visant cette cible, comme par exemple BuzzFeed, Vox, Mike Ozzy ou Fusion.
L'étude met à bas quelques idées préconçues également.
Alors, la première découverte, c'est que ces jeunes ne sont pas du tout une génération apathique, ignorante ou cynique. Plus de 85% d'entre eux considèrent important d'avoir accès à de l'information et 2 sur 3 consomment de l'information chaque jour. Mieux, ils ne se limitent pas à de l'information légère comme le sport ou le divertissement, mais ils disent apprécier l'actualité sociale, politique, locale, en somme beaucoup de sujets dont ils estiment qu'ils les concernent et sur lesquels ils pensent pouvoir agir, soit en votant, soit en rejoignant des associations, par exemple. De même, on découvre que ces jeunes sont prêts à payer. 40% des sondés payent pour leurs informations, en numérique ou en physique. On est certes dans le minoritaire, mais ce n'est clairement pas une partie infime de la population des sondés. Enfin, les réseaux sociaux sont un canal de découverte de l'information très important. Près de 9 sur 10 reçoivent leur actualité via Facebook, sans que ce soit la principale raison pour eux de se connecter au réseau. Et donc, il y a une expression très jolie à ce sujet que j'ai trouvée dans un commentaire de cette étude qui dit « ce sont des accros de l'info par accident. Ils passent tellement de temps sur les réseaux sociaux qu'ils finissent par développer une certaine expertise sur des sujets d'actualité sans passer par un média traditionnel.
Qu'est-ce que ça signifie pour les médias traditionnels, justement ?
Eh bien, je trouve très intéressant de voir le rôle que jouent les réseaux sociaux. Tout d'abord, parce que cela implique une responsabilité pour les médias d'être présents sur Facebook. Y être de manière intelligente va contribuer à former l'opinion de ces nouveaux citoyens. Abandonner ce terrain, c'est laisser d'autres en profiter. De même, intéressant aussi de voir que sur les réseaux sociaux, la notion de confiance est redéfinie. Autrefois, on avait confiance dans une marque média. Est-ce que cela est en train d'être remplacé par la confiance dans un ami ou dans une somme d'amis? Est-ce que ce qui compte, c'est qui partage une actualité ou combien de personnes en parlent? C'est à suivre de très près. Autre révélation intéressante liée aux réseaux sociaux, il y a une certaine volonté d'action liée à l'actualité, même si c'est juste un like ou un commentaire. C'est une réalité, encore une fois, à prendre en compte par ceux qui choisissent quel contenu il faut couvrir et comment. Il y a là sans doute des opportunités à saisir. Et dernier point très important, parce qu'on reproche souvent aux réseaux sociaux de créer des bulles d'opinions similaires. Eh bien, les jeunes sondés par l'American Press Institute affirment que leur compte sur les réseaux sociaux représente une grande diversité d'opinions et que c'est au contraire une façon de diversifier les points de vue beaucoup plus forte que s'ils allaient vers un média en particulier qui pouvait représenter plutôt une opinion ou une autre.
Merci Marie-Catherine. Je rappelle qu'on peut lire tes chroniques, les réécouter sur ton blog de l'Atelier des médias. On peut également visiter ton blog Étreinte Digitale hébergé par Le Figaro. On peut enfin aussi aller voir tes projets dont News on Demand qui est disponible sur l'App Store. À bientôt.
À bientôt.
http://atelier.rfi.fr.
Il y a une audience sur Internet aujourd'hui.
Imaginer beaucoup de choses, et notamment une taxe sur les clics sur Internet.
Nous sommes en train de vivre un changement de modèle économique.
Et Internet est le réseau qui bouscule, parce qu'en permanence, on parle de tout.
Le déluge de communication que nous avons a tendance à étouffer un peu l'information.
L'atelier des médias.
Cela fait une bonne dizaine d'années que la crise de la presse occupe les esprits. Les journaux, les télés, les radios sont petit à petit amenés à devoir repenser leur modèle économique dans un environnement bouleversé par l'Internet et les nouvelles technologies. On a vu en France et ailleurs dans le monde des dizaines de titres historiques disparaître, céder devant le poids des dettes que la baisse de revenus publicitaires et de ventes ne parvenait plus à contrebalancer. On a vu des institutions séculaires être vendues, rachetées par des fortunes plus ou moins récente, plus ou moins légitime. Notre invité aujourd'hui s'inquiète de ce phénomène et souhaite prémunir les entreprises d'information contre les aléas du futur. Elle invite à mettre en place une structure d'entreprise dédiée aux médias qui produisent une information de qualité, d'utilité publique, une structure juridique qui les préserve de l'influence des marchés ou d'actionnaires soucieux de leur image, qui les préserve enfin de la démagogie et de l'autocensure. Sauver les médias, c'est le titre de son essai publié au Seuil, sous-titre Capitalisme, financement participatif et démocratie. Bonjour Julia Cagé.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'économie à Sciences Po Paris. Une grande partie de votre recherche est dédiée à l'économie des médias. Pourquoi d'abord vous vous intéressez à ce sujet ?
Je suis venue à l'économie des médias à travers l'économie du développement, en fait. Et pourquoi on dit sans cesse que l'aide au développement est complètement inefficace et qu'elle entraîne des gouvernements corrompus qui vont détourner de l'aide pour l'envoyer en Suisse. Moi, je suis vraiment venue aux médias par là, parce qu'en fait, ce dont je me suis aperçue en fouillant le sujet, c'était qu'une manière de rendre l'aide au développement beaucoup plus efficace, c'était de donner aux citoyens de l'information sur les flux d'aide qui rentraient. Il peut y avoir une vraie demande vis-à-vis du gouvernement. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivée aux médias, parce que qui va fournir l'information, c'est encore plus compliqué dans les pays en développement en termes de qualité des médias, d'indépendance des médias et des journalistes. Qui va fournir l'information? Ce sont les médias, et donc c'est ça que j'ai essayé de comprendre tout au long de ma recherche.
Donc votre préoccupation d'origine, c'est la transparence de l'aide des grandes institutions internationales vers les pays les plus pauvres, et c'est comme ça que vous vous êtes intéressé aux médias, puis du coup à l'économie des médias, parce que vous avez aussi écrit sur, on va y revenir, sur l'économie des médias au sud du Sahara.
Le premier principe pour avoir des médias qui servent à quelque chose, c'est des médias qui préservent l'indépendance de leurs journalistes. Donc comment vous faites pour payer des journalistes et pour préserver leur indépendance pour que ces journalistes ne soient pas corrompus? C'est pas évident, il faut être capable de leur donner un salaire suffisant. Donc qui va payer? Donc est-ce que ce sont les revenus des ventes? Donc est-ce qu'on va avoir suffisamment de citoyens prêts à acheter les médias? Est-ce que ça va être les revenus publicitaires?
Sachant que ça pose des questions en termes d'indépendance.
Ça pose des questions en termes d'indépendance, et j'en parle longuement dans le livre. Alors du point point de vue principalement de la France et des États-Unis, il y a un effondrement des recettes publicitaires en Afrique subsaharienne qui m'a aussi beaucoup intéressé dans ma recherche. C'est encore pire que ça. On a un marché publicitaire qui ne s'est jamais développé. Si j'exclus l'Afrique du Sud et le Nigeria, dans la plupart des pays, le marché publicitaire pour les médias est quasiment nul, et en tout cas, il est nul pour la presse écrite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'il faut que le gouvernement intervienne? Est-ce qu'il faut qu'il amène des subventions spécifiques? Mais ça pose encore un problème d'intervention de gouvernement, donc d'indépendance. Et c'est vraiment à partir de toutes ces problématiques-là que j'en suis venue à me focaliser beaucoup plus sur cette économie des médias.
Et c'est pour cette raison que vous proposez donc cet essai qui s'appelle « Sauver les médias ». C'est un vœu, c'est une incantation,
c'est une nécessité. Alors moi, ce sur quoi ma recherche se focalise principalement, et c'est parce que je suis intéressée en particulier aux problématiques de démocratie en fait et d'efficacité des politiques publiques. C'est vraiment ce qu'on appelle les médias d'information politique et générale. Ce qui est effrayant, c'est que dans les sondages en termes de confiance, souvent les gens ne font plus confiance aux médias pour leur fournir une information de qualité. Ils ont l'impression que les médias sont ce qu'on appelle biaisés. Ils ont l'impression que les journalistes sont copains comme cochons avec les politiques, que les patrons de presse sont pas tout à fait honnêtes, qu'ils ont des idées derrière la tête. Donc en fait, qu'on les informe pas objectivement et que d'une certaine manière, ils se font tromper par les médias. Je pense que le constat est souvent très exagéré et que la perception est différente de la réalité, mais il y a un vrai problème de qualité des médias aujourd'hui. Il y a un problème en termes de journalistes parce que le nombre de journalistes moyens des rédactions s'est effondré. Et une rédaction, que ce soit sur Internet, que ce soit sur le papier, que ce soit à la radio, à la télévision, ne peut pas produire la même information et la même qualité d'information avec moins de journalistes. Premier problème. Et le deuxième problème, c'est vraiment en termes de qui possède les médias. Et là, il y a une vraie inquiétude aujourd'hui également.
Votre livre, qui est donc une thèse, hein, et qui propose des solutions concrètes et des solutions plutôt économiques. Là, on a parlé de l'opinion, de la manière dont sont perçus les médias, mais votre livre s'attaque plus précisément à la manière dont ils sont financés, la manière dont ils peuvent se projeter dans l'avenir avec un modèle d'entreprise qui soit pérenne, qui soit durable. Votre livre s'ouvre sur un clin d'œil à 1984 de George Orwell. C'est un roman anxiogène d'anticipation sur la surveillance, sur la désinformation, sur des technologies aussi, le fameux télécran, qui permettent cette surveillance, qui permettent cette désinformation. J'imagine que c'est une forme d'avertissement parce que ce monde de 1984, évidemment, il ressemble pas comme deux gouttes d'eau au monde d'aujourd'hui, mais il y a plein d'éléments qui ont évolué dans le sens qu'avait imaginé Orwell.
Oui, il y a plein d'éléments qui ont évolué dans ce sens-là. Puis moi, 1984, ça m'a frappé un peu. C'est un roman qui m'a marqué parce que c'est aussi l'année de ma naissance. Et je me suis dit, bon, voilà ce qui était prévu pour 1984. En fait, ça va peut-être arriver pour mes 30 ans en 2014.
Donc l'histoire commence en 1984 avec votre naissance. Elle se poursuit en 2015 aujourd'hui, à une époque donc d'omniprésence, vous l'avez rappelé, des écrans, où la situation, vous l'expliquez, de la presse est paradoxale. Il y a de plus en plus de producteurs d'informations. Vous donnez l'exemple de la France, mais ça peut se décliner ailleurs. Plus de 4000 titres de presse, une centaine de radios, des centaines de télévisions, mais elles sont plus faibles que jamais.
Oui, c'est ça qui est le grand paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, alors qu'on a de plus en plus de producteurs d'informations, on a de moins en moins de journalistes. Et le fait qu'on ait de moins en moins de journalistes, certains pourraient dire, voilà, il y a moins de journalistes aujourd'hui, il y en a moins en France par exemple, France Soir a fermé, les journalistes de France Soir ont disparu. En fait, si on regarde les données, il y a de moins en moins de journalistes par titre. Et ça, c'est un véritable problème parce que les médias, ils ont une spécificité économique particulière, c'est une industrie à coût fixe. Peu importe le nombre de lecteurs, peu importe le nombre d'auditeurs, peu importe le nombre de téléspectateurs, le coût de production de l'information est le même. Puisqu'en fait, c'est les journalistes.
C'est-à-dire que si, par exemple, pour comparer, et vous utilisez cette comparaison dans votre livre, si on doit construire 1000 voitures pour 1000 clients potentiels, ça va prendre beaucoup plus de temps que si on en construit 50, ça va réclamer plus d'investissement, etc. Alors que faire un journal, si on a 50 lecteurs ou 100 000 lecteurs, ça coûtera exactement la même chose. C'est ça, une industrie à coût fixe.
Voilà, c'est exactement ça, mais ça a une conséquence qui est assez effrayante pour les médias, vu l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Ça, comme conséquence que si vous êtes une industrie automobile et que vous avez une crise de demande, donc vous allez vendre moins de voitures, mais vous allez licencier une partie de vos employés.
Ou mettre au chômage technique
une partie de vos employés, ça ne va pas impacter la qualité de vos voitures. La qualité va rester la même. Alors qu'en fait, si vous avez moins de lecteurs ou moins de revenus publicitaires, donc vous avez moins de recettes à l'arrivée, vous allez vouloir réduire vos dépenses. Et là, vous allez licencier des journalistes, vous allez faire des plans de départ volontaires, vous allez vendre votre journal, il va y avoir une clause de cession.
Et la qualité va baisser.
Et la qualité va baisser. Ce qui, en plus, a un effet pervers, puisque dans le long terme, avec un journal dont la qualité baisse, le lectorat baisse aussi. Et c'est pour ça que les médias, c'est une industrie très particulière et pour lesquelles on peut pas penser leur capital comme pour toutes les autres industries. On peut pas réagir à court terme. Enfin, les médias ont eu trop tendance à réagir à court terme à la crise de leurs finances. C'est-à-dire que dès qu'ils ont une baisse des recettes, ils ont diminué la taille de leur rédaction et la qualité s'en est ressentie. Et ce qui fait qu'il y a un désamour vis-à-vis des médias. Alors qu'en fait, il faut prendre le temps de regagner de l'argent, il faut prendre le temps de regagner des lecteurs et surtout il faut prendre le temps et l'argent de faire de la qualité, c'est-à-dire qu'il faut prendre aussi le temps, surtout dans une situation financièrement compliquée aujourd'hui, de perdre de l'argent à court terme, mais pour refaire un média de qualité à plus ou moins moyen terme.
Nous vivons, je vous cite, le meilleur et le pire des temps. D'un certain point de vue, tout incite à l'optimisme, il n'y a jamais eu autant de lecteurs de journaux. Pourtant, les statistiques en dizaines de millions d'internautes reposent en grande partie sur une illusion. Vous y revenez dans le livre. S'ils touchent un public de plus en plus large, les journaux n'arrivent pas à monétiser, c'est-à-dire à gagner de l'argent avec leur nouvelle audience numérique. À force de courir après des revenus publicitaires en ligne dont ils sont persuadés que leur avenir dépend, les journaux ont perdu sur tous les plans. Celui de la qualité, et donc de la diffusion papier, et celui du numérique qu'ils n'arrivent pas à faire payer. Et les journaux d'attendre qu'ils fassent nuit noire. C'est-à-dire
c'est bon.
D'attendre qu'il fasse nuit noire, c'est-à-dire qu'il ne réagisse pas.
Non, c'était une référence à En attendant Godot, en fait. C'est une citation directe de la pièce où on voit les deux héros attendre sans cesse Godot et laisser la situation se dégrader au fur et à mesure, alors que Godot, et en l'occurrence ici, c'est la manne financière, la manne publicitaire n'en reviendra jamais. Donc il faudrait plutôt réagir et chercher une autre solution, aller chercher ailleurs comment gagner de l'argent et comment refaire de la qualité, plutôt que d'attendre le retour de ces recettes publicitaire.
Mais c'est vraiment ce que font les journaux depuis longtemps. Enfin, ça fait une dizaine d'années qu'on voit les journaux essayer toutes sortes de solutions, investir dans la qualité, le Monde, Mediapart. Enfin, il y a plein d'initiatives. Il y a plein de choses
alors,
qui se
différent.
Passent.
Non, non. Alors, Mediapart, c'est tout à fait différent parce que Mediapart, c'est un média qui a choisi de ne pas faire le choix de la publicité.
C'est encore plus rare d'avoir une réussite financière quand on mise sur la qualité, ce qui est leur cas.
Et qui, en plus, ils ont misé sur la qualité. Ils ont embauché plus de 35 journalistes. Ils vont avoir quasiment 55-60 personnes qui travaillent aujourd'hui pour Mediapart. Ils font de l'investigation. Et ça, ça a été une réussite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis très optimiste. Mon livre, il est fondamentalement optimiste. Je pense que si on fait des bons choix, il y a une vraie demande citoyenne pour des médias de qualité. Donc, les gens seront prêts à réacheter, à remettre de l'argent dans les médias. Sur la publicité, ce qui est frappant, c'est que c'est plus que depuis il y a 10 ans. J'ai collecté les chiffres historiquement et ce dont on s'aperçoit, en fait, en regardant un tout petit peu en arrière, c'est que les recettes publicitaires des journaux aux États-Unis, par exemple, en pourcentage du PIB, sont en baisse depuis 1956. Ça fait plus de 60 ans. Ce qui a changé fondamentalement avec Internet, et c'est pour ça que je dis que les médias ont perdu sur tous les plans, c'est que les médias ont eu l'impression qu'avec Internet, notamment la presse papier, elle allait trouver une solution de compenser cette perte de recettes publicitaires en allant gagner en fait de la pub sur Internet. Et on a eu un déplacement d'argent et d'énergie en fait du papier, de la production d'une information de qualité sur papier, au simple fait de créer des sites Internet et de faire du copier-coller sur Internet pour avoir plus d'audience.
Vous parlez
plus
beaucoup
de
du copier-coller sur Internet,
et pour monétiser cette audience.
Donc des sites qui publient les dépêches AFP, à tout va, dans tous les sens, mais il n'y a pas que le copier-coller quand même sur Internet.
Le problème, c'est quand je dénonce en fait le copier-coller sur Internet, je dénonce une certaine manière de faire de l'information sur Internet, et c'est vrai, et tous les journaux le reconnaîtront, qu'on a embauché des journalistes, souvent d'ailleurs très jeunes, précaires, en CDD, à qui on n'offre pas des perspectives de carrière gigantesques, pour faire du copier-coller sur Internet, et pour alimenter et rafraîchir le site en continu, et ça existe aussi sur lemonde.fr. Et je dis pas ça. Le livre est court, donc malheureusement, quand un livre est court, on fait des raccourcis. Mais ça fait partie de mes recherches, justement, de regarder le poids sur les contenus en ligne du copier-coller, de reprise de dépêches AFP, même le temps que les journaux prennent à publier des dépêches AFP, et justement le temps qu'ils prennent à réajouter du contenu. Et encore une fois, c'est là où on voit le rôle essentiel des journalistes, parce que les médias en ligne qui arrivent à vraiment refournir du contenu supplémentaire, réapporter de l'information après, par exemple, une publication de dépêches AFP, c'est les médias qui investissent beaucoup dans une rédaction, que ce soit une rédaction papier ou web, alors qu'on a quand même de plus en plus des espèces d'agrégateurs. Je pense pas à Google News, je pense plutôt à des blogs qui agrègent de l'information à droite à gauche, qui font vraiment là du copier-coller de dépêches AFP et qui investissent pas du tout dans la qualité.
Votre livre est court, Julia Cagé, parce que le propos essentiel, c'est de proposer un nouveau modèle d'entreprise pour les entreprises de médias. On va y revenir, si vous le voulez bien, dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec Julia Cagé, auteure de Sauver les médias, capitalisme, financement participatif et démocratie, un livre où elle s'interroge sur le futur et le modèle économique des médias et particulièrement des entreprises de presse. Dans une vingtaine de minutes, nous retrouvons Francis Pisani qui nous présente le bureau des temps de la ville de Rennes.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf. Simon de Creuse.
Et vous.
I'm trying, I slip, I fall. I grip, I stretch, I big and tall. I'm lying to my ma again. And half my friends starting to think that I'm dark in them. Darling, let's discuss this when we're calm again. Baby mother drama, karma maybe. Can't pretend that mistakes were not made. Yeah, I'm aware of that, but now it's just me and my baby boy. That's all I care about. And anyone that's got a fucking problem, come, let's air it out. Speak now or forever hold your peace. But you better speak with respect, I expect it. Now proceed. Made the best of a bad situation. Made some big mistakes and I made some slow improvements. Hey man, I'm only human. Love me or leave, cut me, I bleed. Underachieve, I won't do. But I ain't got time to be thinking what to do with me and my time. Read between all the lines as I walk through this place. Same old talk, same old faces, they all falling by. I'm keeping an eye on. I'm keeping an eye on myself. I said I'm keeping an eye on. I'm keeping an eye on myself.
RFI.
Julia Cagé, on a évoqué dans la première partie de l'émission, la situation économique, en gros, des médias, les dérives qu'on a pu connaître avec l'investissement dans du contenu de mauvaise qualité, avec des licenciements. Des licenciements, d'ailleurs, on n'est pas revenu dessus, où l'État a joué un rôle. L'État réduit la voilure, il a réduit la voilure à Radio France Internationale, il réduit la voilure à France Télévisions, il réduit la voilure également à Radio France. C'est pas un très bon exemple, ça, non? Enfin, je sais pas.
Non, c'est un très mauvais exemple, et il ferait mieux de dépenser un peu moins d'argent en moquette et un tout petit peu plus en journaliste. Je pense que l'exemple que donne aujourd'hui l'État français en termes de refinancement de France Télévisions, de refinancement de Radio France et aussi d'ailleurs de RFI est un très mauvais exemple. Parce que ça montre qu'en fait, quand il faut faire des économies, on est prêt à faire des économies sur la mission de service public, des médias de service public, qui est de fournir une information de qualité. C'est vraiment effrayant et c'est d'autant plus triste que, pour le coup, si on revient à la confiance, les médias dans lesquels les Français ont le plus confiance aujourd'hui, c'est Radio France et c'est France Télévisions. En fait, c'est les médias de service public.
L'information est en danger, je vous cite à nouveau. Non seulement le numérique et le tout gratuit risquent de tuer la presse écrite, mais ils représentent également une menace pour l'information produite par les autres médias, la radio et la télévision. Ce sont les journalistes qui sont en train de disparaître et avec eux, l'information que seuls peuvent produire. Pourtant, rien n'est fait. Pourquoi cette passivité?
Je pense qu'il y a une vraie passivité parce qu'il y a une peur de l'intervention de l'État dans le secteur des médias. Voilà. Parce que il faut préserver l'indépendance des médias, parce que la télévision publique, là, au jour d'aujourd'hui, on a le CSA. On va voir d'ailleurs comment va se passer la nomination du nouveau président de France Télévisions, mais quand même, on a des garants. Puis il y a une telle vigilance aujourd'hui qu'on peut espérer que ça se fasse dans des très bonnes conditions. Si on revient à la télévision publique, l'ORTF en France dans les années 60, c'était pas pareil. La BBC au Royaume-Uni dans les années 50, dans les années 60 aussi, il y avait des véritables problèmes d'intervention de l'État. Donc l'État est toujours très mal à l'aise, en fait, avec comment aider les médias et comment le faire de telle manière qu'on va pas accuser l'État d'interventionnisme ou de velléité politique. Nicolas Sarkozy, par exemple, ne s'est jamais gêné, et ça s'est vu au moment du rachat du Monde, d'afficher ses opinions et de menacer le Monde de ne pas voir son imprimerie refinancée à travers les aides de l'État comme elle devait l'être, parce qu'il n'était pas content de qui allait racheter le Monde. Ça, c'est un vrai problème. Si les aides de l'État, ça se passe de cette manière-là, alors là, il y a un problème d'indépendance des médias. Et je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à les réformer, on a du mal à remettre plus d'argent dans les médias, parce qu'on n'a pas trouvé la bonne manière, la manière tout à fait neutre, la manière non arbitraire, en fait, de soutenir les médias, pas seulement en France, d'ailleurs, un peu partout dans le monde.
Vous soulignez également, c'est un peu différent, mais peut-être que ça rejoint cette idée, que le débat ces dernières années a été beaucoup focalisé sur le support, donc le papier, disparition du papier, etc., sur la monétisation, c'est-à-dire comment gagner de l'argent, est-ce qu'on va gagner de l'argent sur Internet, etc., et très peu sur le contenu.
Oui,
et son rôle social, du coup.
C'est ça qui a vraiment été dommage. D'ailleurs, médias comme Mediapart, on souffre encore aujourd'hui, puisque l'État français a pris du temps à reconnaître que de l'information politique et générale produite exclusivement en ligne, en fait, ça avait exactement la même valeur que de l'information politique et générale produite sur le papier. Donc, l'État a mis du temps à donner à ces nouveaux médias d'information en ligne l'accès à la TVA à taux réduit, par exemple.
Donc, à donner les mêmes avantages qu'aux autres médias en papier.
À donner exactement la même accès aux différentes aides, dont la TVA à taux réduit. Alors, un média aujourd'hui peut survivre uniquement avec du papier. Je pense que le canard enchaîné, c'est un bon exemple. À partir du moment où ce que vous proposez, donc typiquement ce que propose le canard enchaîné, ça va être un certain nombre de révélations chaque semaine. C'est pas de l'actualité chaude, le canard enchaîné, donc ça n'a pas besoin d'être remis à jour chaque minute, plusieurs fois dans la journée. Donc ce média-là, il supporte très très bien le fait de n'être que sur papier, et je pense qu'il le vivra parfaitement.
C'est
et Society, d'une certaine manière, c'est pareil. Society, ils ont aussi mis en place...
Ce magazine de société qui vient de sortir, qui est porté par la même équipe que SoFoot et SoFilm.
Voilà. Et ils ont aussi choisi plus ou moins de ne pas investir très fortement sur le net, et ça marche. Et en même temps, on a des médias qui ne se créent que sur Internet. Il y a Mediapart qui est un grand succès. Là, c'est sorti depuis quelques jours dans l'actualité, donc je pense qu'on peut en parler. Il y a Les Jours qui va voir le jour avec beaucoup d'anciens de
Libération. Revue presse de l'actualité média. C'est très, très bien. Donc Les Jours qui est porté par d'anciens de Libération, c'est un projet, il a été annoncé, mais pour l'instant, il n'y a rien de publié. C'est juste
il y a une
site.
Page web.
Voilà, on peut s'inscrire pour avoir des infos.
Pour avoir plus d'informations. Mais, et du coup, je pense que ça dit bien que le support n'est pas essentiel. Ça dit bien qu'on ne va pas réussir que sur Internet ou que sur le papier. En fait, ceux qui vont réussir dans tout ça, c'est ceux qui vont fournir de la qualité.
L'importance du support, le rôle de la publicité, etc. Vous revenez sur plein d'illusions. D'ailleurs, votre deuxième chapitre s'intéresse aux différentes illusions. Parmi ces illusions, il y en a une qui m'intéresse. Avant de parler de votre proposition de modèle économique, c'est celle de modèle juridique pour les journaux et les titres de presse. C'est celle des visiteurs uniques, du calcul des visiteurs uniques. Vous prenez l'exemple du Monde. Vous allez peut-être pas revenir sur les chiffres, mais en gros, vous dites, on nous annonce des millions et des millions de visiteurs, mais quand on calcule bien, on se rend compte que c'est pas si impressionnant que ça par rapport au papier.
Parce que je pense que déjà il y a cette question, est-ce qu'on prend les chiffres en termes de visite totale ou est-ce qu'on prend les chiffres en termes de visite unique,
sachant que des visiteurs uniques, en gros, ça veut dire que c'est une adresse IP, mais si j'utilise mon téléphone puis
vous apparaissez
puis,
deux fois,
voilà,
alors ça
suis...
on sait pas encore le faire. Alors les visites totales, quand les chiffres sont annoncés, c'est un peu mensonger, mais ça permet de véritablement gonfler les chiffres. Les visites uniques, le fait qu'on puisse pas prendre en compte les différents supports, donc le téléphone, la tablette, l'ordinateur, ça, pour le coup, on n'a pas résolu ce problème techniquement, mais de facto, même les visiteurs uniques, on tend à les surestimer. Il y a deux autres dimensions à ça. C'est que, un, quand on présente les chiffres du papier, en général, on les présente en termes de circulation et pas en termes de lectorat. Ce qui revient à sous-estimer, en fait, ces chiffres. Et ça dépend des médias. En moyenne, on peut multiplier par 3,5 ou par 4. Pour des titres comme Le Monde, en fait, c'est quasiment par 6 qu'il faut multiplier la circulation.
C'est-à-dire qu'un exemplaire papier est lu en moyenne par 6 personnes.
Pour Le Monde, on atteint quasiment le chiffre de 6. Donc déjà, si d'un côté, vous prenez en compte les visiteurs uniques et vous pondérez ce nombre de visiteurs négativement par le fait qu'une même personne peut consommer sur plusieurs supports, et que d'un autre côté, vous prenez véritablement en compte le nombre de lecteurs et pas juste le nombre d'exemplaires papier, déjà l'énorme écart qui apparaît
se réduit presque à égalité, quoi.
Pas exactement à égalité, mais déjà ça se réduit pas mal. La deuxième chose qui, je pense, est beaucoup plus importante que ça, en fait, que cette bataille du chiffre. Et c'est pour ça que je dis, parce que c'est vrai que les journaux n'arrivent pas à monétiser leur audience en ligne, c'est que l'information en ligne, on ne fait que la survoler. Les gens ne restent pas en ligne. Il y a des sociologues qui ont fait plusieurs études pour savoir combien de temps en moyenne on passait à lire des informations sur Internet. C'est moins de 5 minutes par jour, c'est moins d'une minute par site et par page et par article. Alors
donc
pour un quotidien, en moyenne, c'est 25 minutes à le lire. Et c'est pour ça aussi que les journaux n'arrivent pas à monétiser cette audience en ligne, parce que les publicitaires ont tout à fait pris conscience du fait que l'œil ne s'arrête pas. En fait, c'est beaucoup moins efficace en fait d'attraper un lecteur en ligne qu'un lecteur papier. Et puis à ça, il faut rajouter le fait qu'il y a une démultiplication des espaces publicitaires en ligne qui a fait que le prix de la publicité en ligne s'est littéralement effondré.
Vous connaissez Edoui Plenel, Julia Cagé, il est cofondateur de Mediapart. C'était il y a 7 ans qu'ils ont fondé Mediapart. Aujourd'hui, cette entreprise d'information qui a levé en tout 5,7 millions d'euros de capital est bénéficiaire. Elle a dégagé plus d'1 million d'euros de bénéfices en 2014. Depuis le lancement de Mediapart, qui ne vit que des abonnements, Edoui Plenel milite pour un nouveau statut des entreprises d'information. On l'écoute au micro du Journal du Net en décembre dernier.
Nous ne voulons pas vendre Mediapart, nous ne voulons pas faire la culbute spéculative. Notre ambition, et c'est l'enjeu des 3 ans à venir, c'est de trouver le cadre financier juridique qui permet de donner le contrôle de cette entreprise à ceux qui la font vivre, c'est-à-dire ceux qui y travaillent, et toujours dans ce modèle sans publicité, sans subvention d'État, où nous ne vivons que de l'abonnement et du soutien de nos lecteurs. C'est notre mot d'ordre, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Nous nous voyons comme un laboratoire. Vous savez, comme un laboratoire de recherche qui a testé des hypothèses et a montré qu'elles étaient valides. Et aussi, nous nous voyons, peut-être peut-on en parler, aussi comme des réformateurs. À partir de notre expérience, nous faisons des propositions, pas pour nous, pour que l'ensemble de l'écosystème soit plus sain, plus vif et une plus forte vitalité. Nous avons demandé, vous voyez bien la crise des métiers de l'information, et au fond, il y a 2 chemins actuellement. Soit on trouve un mécène qui a de l'argent et qui en sert. Achète de l'influence, c'est-à-dire que on est indépendant jusqu'à ce qu'on ne touche pas à ses intérêts. Soit, et c'est un des problèmes français, nous l'avons critiqué et nous refusons ces aides publiques, soit il y a la gabegie des aides publiques qui vont toujours aux plus importants. Et c'est les plus gros qui prennent le plus d'aides publiques alors que les actionnaires ont de l'argent. Nous avons dit, ok, il y a tout ça, mais pour tous les jeunes, et nous-mêmes, mais aussi les jeunes, qui veulent, grâce au numérique, se lancer dans des aventures de presse, car c'est l'âge d'or du journalisme, le numérique, qui est devant nous. World Wide Web, ça n'a que 21 ans. Les Big Four, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon, le Apple du retour de Steve Jobs avant son décès, ça a moins de 20 ans. Donc, dans ce moment-là, il faut que vous proposiez, avons dit au pouvoir public, une troisième voie, pour qu'on trouve les moyens de se financer. Ça a été la croix et la bannière pour trouver les 5 700 000. Il a fallu mettre nos économies, il a fallu emprunter. Personne n'a voulu parier sur nous. Alors, qu'est-ce que nous avons vu et qui nous désole ? Dijonscope, le télescope d'Amiens, le carré d'info de Toulouse, Mars Actu qui a aujourd'hui à Marseille des difficultés. C'est-à-dire des journaux numérique qui se lance face à l'absence de pluralisme de la presse locale, départementale, régionale, et qui n'ont pas trouvé l'argent pour tenir en salaire 3 ans, 4 ans, 5 ans, le temps de convaincre un public d'adhérer. Et donc, pour ça, nous avons proposé, et c'est ce qui va être débattu, on va voir, qu'il y ait une troisième voie qui est celle, on dirait, dans le monde anglo-saxon, du non-profit. C'est-à-dire, je peux lever de l'argent, mais qui ne devient pas actionnaire, qui a un avantage fiscal, et qui me permet de rester indépendant, mais en n'étant pas pénalisé parce que je veux être indépendant, et en ayant les moyens de construire une offre éditoriale.
C'était Edoui Plenel au micro de nos confrères du Journal du Net, Edoui Plenel, donc cofondateur de Mediapart, qui demande, qui propose, qui suggère une troisième voie, un modèle d'entreprise différent pour les entreprises de presse. Il cite toute une série de médias locaux qui ont disparu, qui sont en difficulté. J'imagine que ça vous parle, même si vous n'êtes probablement pas d'accord avec tout ce qu'il dit, parce que vous, Julia Cagé, vous proposez dans votre livre Sauver les médias, un modèle qui est proche de celui que suggère Edoui Plenel, mais peut-être plus précis.
Non, moi je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je suis quand même d'accord avec une très grande partie de ce que dit Edu Plenel, et je pense que son combat depuis le départ sur le non-profit, sur le fait de garantir l'indépendance des médias, sur le fait de ne pas être entre les mains de quelques gros actionnaires extérieurs, c'est un combat qui me parle, c'est un combat que je porte également, et je pense que sur le livre, il se retrouve en grande partie, enfin il faudrait lui demander, mais je pense qu'il se retrouve en grande partie dans la société de médias à but non lucratif, même si bien sûr on ne doit pas être d'accord sur tout, et que je vais un tout petit peu plus loin que juste le non-profit. ensuite. Donc une des choses qui est portée par Edu Plenel, là il le disait pas, mais ce qui est derrière tout ce discours là, c'est qu'il propose d'ouvrir le statut de fonds de dotation aux médias. Alors pour le dire très très simplement, le statut de fondation est très difficilement applicable aux médias, parce qu'en France, si vous voulez être une fondation, il faut un décret en Conseil d'État, et ensuite il faut un représentant du gouvernement à votre conseil d'administration, donc ça pose des vrais problèmes d'indépendance.
Et il faut expliquer que le statut de fondation offre l'avantage de garantir un capital qui ne bouge pas, sur lequel on ne peut pas jouer, etc.
Voilà, etc. Exactement.
Et des avantages fiscaux aussi.
Voilà, il y a les deux choses. C'est que quand vous avez un statut, disons un statut non lucratif, on ne va pas parler exactement du statut de fondation. Un, le capital est pérenne. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez investi le capital, vous ne pouvez pas le récupérer. Ce qui évite plein de problèmes d'autocensure, notamment des journalistes par rapport aux actionnaires, dont ils ont toujours peur qu'ils reprennent leur bille et les mettent les fragilise financièrement, et puis vous réinvestissez tous les dividendes. Donc ça, c'est un des aspects du non lucratif. Et l'autre aspect du non lucratif, c'est que vous bénéficiez des avantages fiscaux du mécénat. Donc en particulier, vous pouvez défiscaliser vos dons. Donc on peut pas faire la fondation en France. Il y a un statut intermédiaire qui a été créé pour simplifier un peu toute cette législation très complexe en France sur le mécénat, qui est le fonds de dotation. Sauf qu'aujourd'hui, dans la manière dont la loi est écrite en France, pour qualifier au fonds de dotation, faut montrer qu'on satisfait une vocation éducative de la société. Donc les médias tels que la loi est écrite ne peuvent pas se qualifier au fonds de dotation. Donc c'est un des combats d'Edouard Plenel. C'est pas le modèle que je pousse dans mon livre, mais je pense que ce serait déjà une très 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 bonne première étape. Et j'espère que le gouvernement, qui est pas très courageux sur ces sujets-là, franchira ce pas, parce que je vois pas ce qui l'en empêche. En fait, je vois pas où est le coût, alors que les avantages apparaissent très très clairement.
Et donc le statut que vous proposez, vous, c'est ce que vous appelez la société de médias à but non lucratif. Il existe des modèles de médias à but non lucratif en France, en loi 1901, c'est ça, plus ou moins, en tout cas.
Oui,
ce sont des montages, quoi, en gros, parce que le droit actuel des entreprises n'est pas satisfaisant, il ne permet pas un modèle idéal. Mais il existe aussi ailleurs dans le monde, en Allemagne, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, où le Guardian est géré par une fondation, par un fonds, c'est ça?
Oui, puis le plus grand groupe de médias européens, un des plus grands groupes de médias dans le monde, c'est le groupe Bertelsmann, qui est un groupe allemand et qui est possédé depuis des décennies par une fondation. Bertelsmann, il n'y aura pas de problème de succession. Alors que si vous prenez le cas de la France, par exemple, Libération a souffert de la succession de son actionnaire italien, dont la famille voulait plus garder les actions dans Libération. Claude Perdriel, d'une certaine manière, il a anticipé les problèmes de succession en bradant son média au groupe BNP, donc Berger Niel Pigas, qui possède également Le Monde. Et on sait très bien qu'au moment...
Perdriel, c'était le Nouvel Observateur, rue 89 aussi.
Et c'est ce que veut éviter Plenel aussi. Il veut éviter qu'il y ait un problème au moment de la succession, ce qui se passe en fait si on n'est pas dans une structure où on a pérennisé le capital comme dans une structure à but non lucratif, dans une structure de fondation. Pourquoi c'est pas suffisant la fondation? Et là Bertelsmann ça l'illustre très 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 bien, c'est que les premiers fondateurs, en général, les premiers à apporter de l'argent, du capital, ce sont aussi eux qui écrivent les statuts de la fondation, qui écrivent les statuts du conseil d'administration, des différentes structures juridiques et légales. Et en général, ils les écrivent de telle manière à conserver le pouvoir. Et en fait, du coup, ça résout le problème du capital. C'est pour ça que mon livre, ça s'appelle « Capitalisme, financement participatif et démocratie ».
Le sous-titre.
Mais ça résout pas le problème de la démocratie. Ça résout pas le problème de la prise de décision. Qui va prendre la décision et comment vont être prises les grandes orientations éditoriales en termes d'investissement, en termes de qualité du média. Donc, ce que je propose dans le modèle, c'est un modèle que j'appelle société de médias à but non lucratif. En fait, qu'on pourrait également appeler fonds d'action, parce que c'est un modèle à la hybride entre la fondation et la société par action. Donc, ce que ça, la fondation, vous l'avez bien compris, c'est le non lucratif, la pérennité du capital, le fait qu'on réinvestisse les dividendes. Mais ce que je propose, c'est que pour les petits donateurs, les gens qui font du financement participatif, du crowdfunding, les gens qui font du crowdfunding actuellement, ils sont justement considérés que comme des donateurs, et le financement participatif n'a de participatif que le nom. Et moi, ce que je veux, c'est que ce financement soit véritablement participatif. Donc quand vous allez faire un apport en capital à un média, ça va vous donner des droits de vote, ça va vous donner du pouvoir. Donc si vous êtes un journaliste, ou si vous êtes notamment un lecteur et que vous apportez du capital, comme ça a été fait récemment, par exemple, pour Society, on en parlait, ils ont essayé de lever un peu de fonds à travers une initiative de crowdfunding. Bon, les gens qui ont apporté du capital à Society au jour d'aujourd'hui, ils ont fait un chèque en blanc. Moi, dans mon modèle, ils auraient une partie des droits de vote. Et je propose d'aller plus loin que ça, parce que je veux véritablement favoriser le financement participatif. Je propose qu'en dessous d'une certaine détention d'une certaine partie du capital, donc disons en dessous de 10% du capital, vos droits de vote augmentent plus rapidement que votre apport en capital pour favoriser justement la multiplicité des petits actionnaires.
Et que les gros actionnaires n'aient pas trop de pouvoir.
De 10%, vos droits de vote augmentent moins rapidement que votre apport en capital.
Il y a une proposition de loi qui est en cours d'évaluation en France. Elle est portée notamment par le député Michel Français, qui vise à moderniser la presse également. Parmi les mesures en discussion, il y a la création d'un statut d'entreprise solidaire pour la presse, selon certaines conditions qui ont été précisées par le Sénat tout récemment. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Non, mais moi je pense que tout ce qui va vers la modernisation des médias, c'est très bien. Ce que j'ai lu de ce qui a été discuté au Sénat, ce qui me paraissait pas clair, c'est ce qu'il y avait vraiment derrière ce statut. C'est-à-dire qu'on disait que si on crée une entreprise de médias, d'ailleurs principalement en ligne, qui mettait déjà une condition sur le support, à condition que vous réinvestissiez une certaine partie de vos profits, alors vous alliez avoir droit à certains avantages fiscaux. La mesure telle que je l'ai lue au Sénat et telle qu'elle a été discutée, je pense qu'elle ne va pas assez loin et qu'elle était insuffisamment claire, mais oui. J'attends d'en voir la version finale, celle qui va être adoptée à l'arrivée. Tout ce qui va dans le sens du non lucratif et de la modernisation, pour moi, c'est une bonne chose. Il y avait une deuxième mesure qui a été discutée au Sénat, c'est ce qui s'est appelé l'amendement Charb, en hommage aux événements de Charlie, qui permet de défiscaliser dans une certaine mesure des apports en capitaux à hauteur de 2000 euros, je crois, pour les médias. Donc ça aussi, ça va dans le sens du non lucratif. Sauf qu'en général, vous défiscalisez un don, vous défiscalisez pas un apport en capital. Donc, il y a plein de petits pas en avant. Michel Français, c'est un député qui travaille depuis des années sur la presse, qui a fait énormément de rapports sur les aides à la presse. C'est vraiment un spécialiste du sujet. Moi, ce qui m'attriste plutôt, c'est le fait que le gouvernement, justement, soit pas plus derrière lui pour lui permettre d'aller plus loin et d'être un peu plus audacieux dans ses propositions.
Merci Julia Cagé.
Merci beaucoup.
Sauver les médias, capitalisme, financement participatif ou crowdfunding, c'est aussi comme ça qu'on dit. Financement participatif et démocratie, c'est le titre de votre livre publié au Seuil. On trouvera sur l'atelier des médias la version longue de cet entretien ainsi que des liens et des informations supplémentaires. À bientôt.
À bientôt, merci.
RFI. Je suis sûr d'une chose, Twitter, les blogs, les médias enrichis, toutes ces choses n'ont aucune profondeur, elles ne dureront pas. Et je refuse de me laisser distraire par ce qui est à la mode.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Jeanne Mahalouf.
Comment ça va ?
Très bien, et toi ?
Très bien, merci. Aujourd'hui, Francis, tu souhaites nous parler du bureau des temps de la ville de Rennes. De quoi il s'agit ?
Écoute, d'abord, je voudrais commencer, si tu veux bien, par un problème urbain précis et fréquent. La phase critique des pics horaires des transports en commun, on appelle ça l'hyperpointe, dure rarement plus d'une quinzaine de minutes, mais elle sème une telle pagaille qu'elle entraîne souvent l'achat de bus ou de rames de métro supplémentaires qui doivent ensuite tourner presque à vide. C'est ce qui se serait passé à Rennes en 2012-2013 si la municipalité n'avait pas eu recours à un service dont le nom me paraît à moi sorti de l'univers de Harry Potter, le bureau des temps. Et son fonctionnement aide à comprendre comment puiser dans la vraie intelligence des villes. Tout a commencé en 2002 avec Parents d'hommes, un effort pour équilibrer les temps des hommes et des femmes, pour mieux articuler la vie familiale et la vie professionnelle, m'a expliqué Evelyne Reeves, responsable du bureau en question. Il s'agissait surtout de crèches et de gardes d'enfants à domicile en cas d'urgence. Et le gros morceau, c'est-à-dire le travail sur les flux, a démarré en 2006 avec l'apparition de risques d'engorgement sur la ligne de métro. Il s'agissait d'un pic de 14 minutes exactement vers 8 heures du matin qui paralysait certaines sorties et pouvait entraîner l'achat de nouvelles rames. Et personne ne trouvait la réponse.
Je dois admettre, Francis, que je ne savais pas qu'il y avait un métro à Rennes. Et comment le bureau des temps procède pour résoudre un tel problème ?
Alors d'abord, il faut savoir que Rennes est la plus petite ville du monde, avec Lausanne, semble-t-il, qui soit dotée d'un métro. Il y a une ligne et il y en aura bientôt deux. Ils sont en train de construire la seconde. Maintenant, revenons à ton problème. Comment est-ce que le bureau des temps aide à résoudre le problème ? Il s'est appuyé sur les données de Keolis, une agence de la SNCF, et il est allé voir un par un les principaux producteurs de temps, c'est comme ça qu'ils disent, c'est-à-dire les entités qui font bouger beaucoup de monde aux mêmes heures, les universités, les hôpitaux, les administrations, les grosses entreprises. Elles ont commencé par répondre que c'était le problème de l'administration, mais Reeves, qui est donc la responsable du bureau des temps, leur a montré que c'était aussi le leur, en leur expliquant que le prix du ticket de métro ne couvre qu'un tiers du coût réel du transport et que donc toute dépense supplémentaire aurait des répercussions pour tout le monde. Il a fallu beaucoup de réunions et de patience pour faire se rejoindre les points de vue et envisager une action commune. Mais le plus compliqué tenait au fait que changer le rythme d'un seul acteur, une université par exemple, pouvait bouleverser tous les équilibres. Ils s'y sont donc repris à plusieurs fois avant de trouver la bonne réponse. Il faut du temps pour travailler sur le temps, m'a expliqué Evelyn Reeves, mais elle et son équipe sont arrivées à résoudre le problème de l'hyperpointe à moindre frais.
Et comment ont-ils fait ?
Alors, selon elle, deux éléments clés ont permis de réussir. D'abord, le fait que dans la phase de négociation, le bureau des temps était un tiers neutre entre producteurs de temps et transport public, donc il était ni d'un côté ni de l'autre. Puis, à mesure que le programme se mettait en place, la possibilité de valider les résultats. Le bureau d'État a en effet étudié une semaine test sur 3 ans d'affilée pour faire la preuve de l'efficacité de son programme. D'autres ont fait des choses semblables ailleurs, mais n'ont jamais été capables de faire la preuve de l'impact de leur action, qui a donc été arrêtée. Et je trouve cette expérience exemplaire, car le bureau dresse en fait la cartographie du temps. En connectant les espaces et les temps dans une même dynamique, il structure l'histoire d'une communauté urbaine en s'appuyant à la fois sur l'informatique et la concertation citoyenne, sur Datapolis et Participolis, pour reprendre les termes que j'affectionne, comme tu le sais.
Merci Francis Pisani. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes tes chroniques sur ton blog de l'Atelier des médias. On peut aussi découvrir ton site francispisani.net ainsi que tes contributions à La Tribune et à L'Opinion. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 376 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Jules Nardouek, Raja Yahyaoui, Simon De Creuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter, Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et arablog.org. Notre podcast est disponible également sur toutes les applications dédiées. Nos sujets en version longue sont à retrouver sur SoundCloud. Merci pour votre écoute, vos réactions, vos encouragements. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini ?
Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Ben, ça continue sur Internet.